I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut, ça va? Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute! Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va. Comme chaque semaine, on vous retrouve en ce lundi matin. On espère que vous avez passé un bon week-end. Et je dis on parce que je suis accompagnée d'un invité très spécial.
Mystère, mystère, qui est-ce?
Qui est-ce? Est-ce que vous reconnaissez sa voix? Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre.
Mais ouais, c'est voilà. Plus facile. Coucou tout le monde.
Je suis avec Samuel, qui est, pour ceux et celles qui ne le savent pas, mon mari depuis maintenant longtemps.
Ah, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est mariés.
Depuis 2017, faites votre calcul, parce que peut-être qu'ils n'écoutent pas ça en 2023. J'avais envie de faire cet épisode, on est dans un contexte un peu particulier, puisque demain, Samuel s'envole pour la Tanzanie.
Et ouais.
Pour 15 jours. Franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été autant séparés, je pense.
Je sais même pas si on a déjà été autant séparés.
Je pense que si, quand même.
Quand même. 15 jours pleins. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu m'as dit hier, c'est que c'est la première fois qu'un de nous reste avec Gaspard aussi longtemps tout seul, c'est-à-dire sans être en vacances quelque part et tout.
Avec genre nos proches,
ouais,
nos parents.
Avec nos proches et tout. Là, c'est vraiment genre 15 jours de quotidien toute seule avec Gaspard et moi 15 jours sur un autre continent, quoi.
Ouais, c'est fou. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Non.
Donc, on va revenir à notre sujet. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire le podcast ensemble? On va parler d'un sujet qui touche pour le coup, de très près à la santé mentale, puisqu'on va parler de la dépression et de comment est-ce que toi, tu as réussi à traverser cet épisode dépressif et comment, en tant qu'aidant, accompagnant, je ne sais pas tellement comment on peut appeler ça, moi, j'ai pu le vivre et peut-être donner un témoignage sur ces périodes qui peuvent arriver dans n'importe quelle vie et à n'importe quel moment. Et ce n'est pas toujours facile d'aborder ces sujets. Et je trouve que le podcast est un bon moyen de le faire.
Carrément.
Donc voilà. Alors, on va repartir un petit peu quelques temps en arrière. C'est beaucoup plus facile d'avoir du recul maintenant. Sur le moment, je pense qu'on n'aurait pas pu enregistrer cet épisode, ça c'est clair, parce qu'on a mis longtemps, je pense que tu as mis longtemps à mettre un mot déjà sur
complètement.
Ce qui t'est arrivé.
J'ai mis des mois et des mois, enfin, voire peut-être... après, rétrospectivement, aujourd'hui, je me rends compte, je ne sais même pas mettre un point de départ et dire c'est à partir de tel jour où j'ai été en dépression. Donc ça s'est installé petit à petit sur plusieurs mois, voire des années. Et c'est très difficile de dire ça a commencé à tel moment. Ce qui est sûr, c'est que ça faisait très très longtemps que j'étais dans un état qui n'était pas un état normal, en fait, un état heureux. Et ça a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'obstacles pour traverser cette épreuve-là.
C'est vrai que je ne crois pas vraiment qu'il y ait eu un déclic et je ne sais pas si vraiment ça peut arriver comme ça, tu vois, du jour au lendemain, genre tu te réveilles un matin et tu es en dépression. Je pense que c'est une accumulation de choses.
Bah ouais, après il y a des événements de vie chez certains qui font que d'un coup il t'arrive quelque chose de terrible et voilà, ça peut enclencher un état dépressif. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas le cas. C'était vraiment quelque chose qui s'est insinué en fait petit à petit. Comme si je montais plutôt que je descendais un escalier et que chaque marche en fait c'était les jours qui continuaient d'avancer et en fait à un moment j'ai regardé en hauteur, je me suis dit putain j'ai descendu tout ça merde et à ce moment là je me dis bon faudrait peut-être remonter quand même parce que là c'est très très sombre en bas et il fait pas très beau quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là de descente et perte d'énergie et perte de sens, perte de goût en fait. J'ai
bien
l'impression
sûr.
Que tout était plus fade pour toi.
Bah en fait, ça fait partie des symptômes de la dépression. Hein, donc je suis pas psy, mais j'ai suivi du coup une psychologue pendant quelques mois, plusieurs mois, pour essayer d'avancer. Et donc c'est vrai que ce qu'on a observé, c'est que chez moi, ça se matérialisait par exemple par vraiment une perte de sens, une perte d'envie, d'énergie, de faire les choses, de pas aller au bout de ce que je voulais faire. Beaucoup de fatigue en fait, de la fatigue mentale en fait, c'est-à-dire que moi il y a des jours où j'amenais Gaspard à l'école, après je me mettais dans le lit jusqu'à que j'aille chercher Gaspard à l'école le soir, et c'est vrai que c'est pas normal quoi, pendant un certain temps je me rendais même pas compte, je me disais t'es juste fatigué, mais en fait j'avais envie de rien faire quoi.
Oui, il y avait cette incapacité, je me souviens vraiment à te... En fait, il n'y avait pas de repos possible. Ouais. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement genre je dors mal la nuit ou il y a une fatigue physique. Ou, c'était vraiment ce côté surmenage, mais émotionnel.
Ouais, c'est-à-dire que tu es à la fois épuisé et à la fois tu ne fais que te reposer. En fait. Enfin, c'est ce que tu as l'impression. En fait. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Je dors. Parce que moi, en plus, je n'étais pas, comme dans beaucoup de cas, la dépression, c'est aussi beaucoup d'insomnie, beaucoup de difficultés à l'endormissement. Moi, ce n'était pas le cas. Je m'endormais, en fait,
tout
le temps.
Bien,
hein, je m'endormais à 21h. Ouais. Parce qu'en fait, mon cerveau, il avait besoin de couper. J'en avais marre, en fait, de ma journée. Donc, je coupais. Mais en fait, ce n'était pas un sommeil qui était réparateur. Et en plus de ça, bah, dans la journée, j'avais tellement le moral à zéro que, en fait, je me disais, bon, bah, je vais m'allonger. Tu vois. Et c'est vrai que, bah, du coup, tu fais rien de tes journées.
Et tu ruminais beaucoup.
Je ruminais beaucoup. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment la perte de sens, puis il y a la perte totale de confiance en soi. Et du coup, le sentiment de ne pas être bien, de ne pas être bon, de ne pas être efficace dans ce que je faisais, que ce que je faisais, c'était pas intéressant pour les gens professionnellement, que j'étais pas un bon père pour mon fils, pas un bon mari pour ma femme. Et en fait, ça, c'est des trucs qui restent toute la journée dans ta tête. C'est-à-dire, c'est pas genre « Ah putain, ce matin, j'avais vraiment un mauvais mood parce que je me suis dit « T'es un mauvais père ». Toute la journée, il y a comme des petites voix qui te disent « T'es un mauvais père, t'es un mauvais père, t'es un mauvais père, t'es un mauvais mari, t'es un mauvais mari ». Et en fait, du coup, toi, ton cerveau, il entend ça, ça devient une normalité pour lui. Et en fait, du coup, t'es complètement démoralisé, t'as plus aucune estime de toi-même. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Il y a un moment, on pouvait plus rien me dire. Parce oui, que dès qu'on me disait quelque chose, c'est ce que t'as ressenti, j'imagine.
Non, mais j'allais te poser la question, est-ce que tu penses qu'à cette période-là, t'aurais eu besoin qu'on te répète « t'es un bon mari, t'es un bon père, t'es un bon mari, t'es un bon père » ?
Je sais pas, parce qu'en fait, la dépression, c'est quand même une maladie qui existe, quoi. C'est pas un truc qui s'invente chez les gens. Et c'est vrai que malgré tout l'amour et toute la positivité qu'il y avait, c'est ça le pire, c'est que c'est quelque chose où tu te dis en plus, mais putain, t'es vraiment ingrat, quoi. C'est-à-dire que la vie te donne tellement de choses. Je veux dire, on a de l'argent, on a une bonne situation, j'ai une femme qui m'aime, j'ai un fils qui va bien, qui est en bonne santé, qui est heureux. Et je n'arrive pas, moi, à être heureux avec tout ça. Et ça rajoute, en fait. Ça rajoute à la dépression parce que tu te dis, putain, il y a des gens, ils sont dans la rue, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont rien. Et ils sont plus heureux que moi. Et moi, j'arrive pas à être heureux. Je suis un petit con, je suis ingrat, je me déteste, en fait. Tu vois, t'as vraiment ce truc. Et wow, c'est la couche de plus qui vraiment finit de t'achever en termes de santé mentale, quoi.
Oui, donc le discours qu'on entend parfois en mode allez, bouge-toi, la dépression, genre en gros, tu peux t'en sortir en te mettant un coup de pied au cul.
Ouais, bah ça, tu sais, c'est exactement comme si j'allais voir quelqu'un, je sais pas, qui a une grippe ou quoi, et lui dire bon, rien à foutre de ta grippe, en fait, sors de là, va faire ton sport, va bosser. En fait, c'est une maladie. C'est une maladie qui nécessite un traitement. Et tous les gens qui disent que la dépression, c'est un truc qui n'existe pas vraiment, en fait, et qui est juste une invention humaine pour dire je suis malheureux et pour se faire plaindre, ils ne connaissent pas la scientifique définition de la dépression.
Oui, parce qu'on le sait, au niveau cognitif, même dans le cerveau, etc., je veux dire, il y a hormonalement, chimiquement, des choses qui se passent.
C'est une maladie.
Oui, voilà.
C'est une maladie et particulièrement pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller regarder sur internet, il y a des neurotransmetteurs, donc des molécules, je suis pas un expert, hein, mais il y a des choses qui se passent au niveau du cerveau qui se passent moins bien quand on est en dépression, et c'est une vraie maladie. Donc voilà, il y a différents stades, il y a différentes gravités. On sait que moi, par exemple, pour le coup, j'étais pas dans un stade de gravité extrême, parce que le dernier stade de gravité, c'est quand on commence à avoir des pensées suicidaires ou des envies de se faire mal, des idées noires, tout ça. Ça, moi, c'était pas le cas, heureusement. Et c'est vrai que c'est le dernier stade, mais j'étais juste avant ce stade-là, quand même. Quoi. Donc, c'est une vraie maladie. Donc, il faut pas, quand on est aidant, par rapport à notre vécu à nous, c'est vrai que toi, t'as été vachement dans ce truc de la patience. Et c'est là où je suis dans une gratitude extrême, parce que beaucoup auraient pu me dire, bon, écoute, ça suffit, lève-toi. En fait,
je voulais pas être celle qui te mette devant un professionnel ou qui... Parce que en tant qu'accompagnante, je sais pas si c'est toujours le cas, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe, etc. Et c'est ok, enfin, je veux dire, il n'y a pas de culpabilité non plus par rapport à ça, parce que c'est tellement difficile de comprendre déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors à l'intérieur de l'autre, même si partage sa vie, etc., c'est compliqué. Moi, pour le coup, j'avais vraiment eu des signaux d'alerte. Et j'en ai parlé beaucoup autour de nous, à nos proches, etc. Bon, on a aussi nos meilleurs potes qui sont psy, donc forcément, c'est des sujets qu'on aborde plus facilement. Mais je voyais vraiment qu'il y avait ce truc, en fait, chez toi, parce que ça fait des années qu'on se connaît, qui est cyclique, en fait. Et qui, je pense que ces épisodes dépressifs, en fait, ils étaient là depuis très longtemps, moins intenses, mais de façon cyclique. Dans notre vie, il y a toujours eu des moments où tu as été, tu vois, très enjoué par rapport à des choses et tu t'es mis des objectifs hyper hauts. Et en fait, tu as été déçu de toi parce que c'était des objectifs qui étaient inatteignables. Et du coup, c'était un espèce de cercle vicieux où tu rentrais dans des épisodes, alors peut-être de déprime à ce moment-là, tu vois.
Ouais, plus que parce de dépression. Que c'est pas de la dépression.
C'était pas de la dépression, parler, voilà. Mais en tout cas, des épisodes cycliques
c'est
de déprime
schéma,
comme ça.
Ouais. C'est un qui schéma se répétait, que j'ai beaucoup, ouais.
Ouais, de fonctionnement, etc. Et il y a eu un moment où, en fait, il y a eu un petit tilt en moi où je me suis dit, oh là là, on n'est plus sur la déprime, on est vraiment sur quelque chose de plus intense, de plus long, c'est-à-dire vraiment et en termes de durée.
Ouais. Et de plus stable aussi, parce que avant, comme tu disais, il y avait des moments hauts, des moments bas, un peu comme dans la vie de tout le monde, mais moi, c'est vrai que c'est un peu extrême de base, des moments très hauts, des moments très bas, mais là, c'était que bas, quoi. Il n'y avait plus du tout de trucs qui me permettaient de remonter un peu le moral et de me dire, bon, bah, ça va le faire.
Ouais. Oui, oui, c'était très symptomatique de ce qui allait arriver, entre guillemets, même si on ne peut pas le prédire, attention, hein, mais je sentais que c'était de plus en plus fragile et en même temps, je ne voulais pas être celle qui te pousse à aller consulter ou celle qui te dit, bah, voilà ce que tu as, etc. Déjà, parce que je ne suis pas professionnelle de santé et qu'en plus de ça, quand on est très proche, je pense que c'est encore plus difficile d'avoir un recul sur tous ces sujets. Mais il y a eu un moment où quand même tu as eu un déclic et tu t'es dit là il faut que j'aille me faire aider. Comment ça s'est passé?
En fait, le déclic, il vient de notre couple, parce qu'en fait ça allait tellement mal moi personnellement que bah le couple forcément en pâtit, et malgré tous les efforts que le partenaire ou la partenaire peut faire, à un moment quand l'autre est dans un état pareil, tu peux pas porter un couple à bout de bras et c'est épuisant. Et donc effectivement, nous, notre couple, il a vraiment tangué à ce moment-là, c'était vachement difficile et c'était vraiment l'envie de sauver notre couple et de pas finir par rompre, ou enfin en tout cas par vraiment s'éloigner. Je me suis dit on a un problème vis-à-vis de notre couple. Ok, il y a des choses qu'on règle en tant que couple, parce qu'il y avait aussi des choses à régler en tant que couple, mais il y a aussi énormément de choses que je dois régler moi, parce qu'en fait, je vois bien que le couple, c'est un symptôme d'un problème que j'ai moi aussi, parce que je voyais que professionnellement, ça allait pas, qu'avec Gaspard, c'était de plus en plus compliqué. Et donc, je me suis dit, en fait, là, t'es en train de... Il y a toutes tes sphères de vie qui sont en train d'être entachées par ton mood et ton ambiance mentale. Et à un moment, voilà, je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'en parle. Et c'est vrai que le fait d'avoir deux meilleurs potes qui sont psychologues cliniciens et qui peuvent te dire, bah oui, oui, parle-en, Sam, c'est une bonne idée. On va te donner un contact de quelqu'un qui est très bien. Et après, bah, du coup, j'ai vu une psychologue qui est spécialisée dans les TCC, donc les thérapies cognitives
et comportementales.
Merci. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a fait, en fait, je crois. Enfin, je ne saurais pas dire exactement...
Elle a une approche assez globale, voilà. Dont des outils TCC, mais je pense que, tout concernant, elle a utilisé plusieurs techniques.
Oui, bien
techniques.
Sûr. Bah, on a, voilà, puis après, donc, le suivi s'enclenche. Et en fait, les premiers rendez-vous avec elle, c'était en fait vraiment mettre un mot sur ce qui se passait. C'est-à-dire qu'avec toi, avec Loïc, Mathilde, nos meilleurs amis, avec les proches, surtout moi, je ne parlais pas beaucoup de monde de ça, on ne disait pas le mot dépression, parce que c'est un truc, c'est vraiment un diagnostic. Donc, c'est la première fois que j'ai vraiment entendu quelqu'un me dire, là, vous êtes clairement en état dépressif. C'est ma psy, quoi, après deux ou trois rendez-vous. Donc,
oui, tu as un regard extérieur.
Voilà,
aussi,
ça fait du bien d'avoir ça, et quelqu'un qui te dit, il y a ça qui se passe, mais t'inquiète pas, ça se traite.
Ouais.
Et ça, putain, ça fait du bien aussi, quoi. C'est-à-dire que le truc de... ça arrive à énormément de monde, et ça se traite et ça se soigne.
Et plus tôt on le prend en charge.
Et plus tôt on le prend en charge, mieux c'est. Et clairement, il y avait ce truc de « Ah, c'est ça, c'est une dépression. Ok, au moins je sais ce que c'est. Maintenant, je peux le combattre. » Voilà, moi, à un moment, je me suis un peu mis en mode « Bon, maintenant, je vais lui niquer sa mère, c'est une dépression. » quoi. Parce que quand tu sais pas ce que c'est, tu te dis « Mais en fait, c'est peut-être juste moi, je suis comme ça.
Ouais.
Je suis un mec qui a ce moral-là. »
Oui, il y a un côté un peu « Je suis foutu et je suis fou à la fois.
Ouais. » Il y a ce truc de se dire « Au final, je suis peut-être juste comme ça. J'ai pas d'émotion, j'ai pas de plaisir. C'est peut-être ma personnalité. » Tu sais, le truc de se dire « Je suis hyper casanier, je suis hyper ours. Non, t'es en dépression, tu veux pas sortir parce que t'as de l'anxiété sociale. » voilà, c'est des mots sur des choses que toi, t'imagines autrement. Et ça fait du bien, quoi. Et après, t'enclenches vraiment le traitement, la guérison, tout ça, quoi.
Ouais, ça a été un sacré parcours, mais je me souviens qu'il y avait vraiment eu ce truc de soulagement. Et c'était une période qui était hyper quand même compliquée, parce que moi, à ce moment-là, ma maman était très malade. Et donc, l'année a quand même commencé de façon très intense au niveau, tu vois, de notre cercle proche et tout. Et je me souviens que il y a eu quand même une certaine forme de soulagement parce que de poser des mots et de savoir que il y avait un diagnostic. Savoir qu'il y a un diagnostic, c'est savoir aussi qu'il y a une possibilité de s'en sortir.
Exactement.
Et je me souviens que cette période-là, elle a été hyper salutaire pour toi, mais aussi pour nous. Parce
Bien
que
sûr.
Même pour Gaspard, vous êtes tellement liés que lui, il y a une... on l'avait ressenti, hein, une certaine forme de soulagement, même s'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passe, parce que ça reste un enfant. Il capte tout.
Ouais, les...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
L'énergie n'était plus du tout la même.
Voilà.
Du moment où le travail était enclenché, l'énergie, c'était plus du tout la même. Et c'est vrai que ça, c'était hyper, comme tu dis, un grand soulagement.
Mm.
Et c'est vrai qu'on avait une année quand même, familialement, personnellement, on était vraiment déjà bien entamés, surtout toi. Et là, de se dire, on va pouvoir enfin avancer sur ça...
Ouais.
Ça a fait du bien, je pense. Et après, c'est vrai que c'est quand même long, hein, parce que j'ai vu quand même plusieurs mois d'affilée ma psychologue toutes les semaines. Hein, mais ce que j'ai bien aimé, parce qu'en fait, j'avais tenté un autre psychologue avant, et c'était une méthode qui ne me correspondait pas du tout.
C'était de la psychanalyse. Hein.
J'étais halluciné. Le premier rendez-vous qu'on fait, je raconte comment je me sens, machin et tout. Et genre en 45 minutes, on finit par parler du métier de mon grand-père et de en quoi ça m'impacte aujourd'hui, quoi.
Mmh.
Alors que genre, des trucs comme ça, des trucs qui partaient super loin. Et moi, j'étais là, genre, mais je vois pas le rapport du tout.
Oui, ça t'a pas du tout
et
aidé.
Voilà, et donc, du coup, j'avais du mal. Et quand j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, oui, bon, on va traiter chaque truc, chaque compartiment qui correspond à l'entièreté de la dépression, on va s'en occuper parce que... Il y a des gens qui sont en dépression, qui ont pas du tout les, enfin, qui ont globalement les mêmes symptômes, mais qui ont différentes particularités. Moi, par exemple, je suis assez anxieux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans, je sais pas, dans le stress, dans l'insomnie, par exemple, les habitudes de sommeil, tout ça. Moi, ça, c'est pas quelque chose qu'on a travaillé parce que c'était à peu près ok. Mais il y a d'autres, voilà, il y a d'autres choses. La question de la responsabilité. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Le fait de pas prendre toute la responsabilité de ce qui se passait autour de moi, de pas me sentir fautif. Dès qu'il se passait quelque chose de négatif autour de moi, c'est des choses qu'on a travaillées, qui sont assez personnelles en fait, qui sont assez spécifiques. Et petit à petit, chaque compartiment, tu les résous.
Ouais, t'ouvres le tiroir,
tu ranges, tu refermes le tiroir, tu dis allez, tiroir d'après.
Ouais.
Il y a des tiroirs qui sont plus agréables que d'autres à secouer, mais une fois que l'étagère est terminée, tu te dis bon, ça va tenir quelques temps. Il suffit que je les ouvre de temps en temps pour vérifier que tout est en ordre, quoi.
Et donc. Au fur et à mesure des séances, il y a eu quand même une direction qui a été envisagée de te faire aider également par de la médication, c'est comme
oui,
ça qu'on dit,
bien sûr.
De la chimie. Sachant que bon, je crois que la Haute Autorité de Santé conseille en première intention toujours une psychothérapie.
Bien sûr.
Et il faut le rappeler quand même ici, mais les médecins généralistes ne sont pas forcément hyper informés sur ça. Ils ont tendance à donner des antidépresseurs sans forcément le coupler avec une psychothérapie, alors que bien accompagné, on n'est pas obligé de prendre des antidépresseurs. Toute sa vie. Alors,
et puis il y a différentes doses.
Exactement.
Et puis voilà, c'est vrai que ça, c'est vraiment un pas que j'ai franchi où j'avais beaucoup, beaucoup de préjugés, d'appréhension. Pour moi, les gens qui prenaient des antidépresseurs, c'était des gens fous. Je le dis clairement, genre jusqu'à que.
Mais parce qu'on n'en parle pas en fait.
Parce que voilà, pour moi, les antidépresseurs, c'était un truc de malade, quoi. Et pour le coup, vu que j'avais jamais associé la dépression à une maladie, je me disais, c'est pour les gens fada, vraiment les gens qui ont des problèmes très graves et qui sont en grande difficulté. Et en fait, quand ma psy m'a dit, là, ce qu'on fait, c'est important, mais la dépression, c'est aussi, alors si je dis pas de bêtises, un souci de recapture de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Vraiment là, je suis en mode sur mes souvenirs d'il y a 8 mois, donc s'il y a des experts, ils rattraperont mes bêtises, mais en gros les médicaments, ils t'aident à reprendre, que ton cerveau il puisse récupérer certaines molécules qu'il a du mal à récupérer tout seul, donc les médicaments, ils t'aident à ça. Ou alors ils empêchent ça, je sais plus, mais bref, voilà.
Mmh.
Les médicaments t'aident vraiment sur un truc biologique qui existe dans ton cerveau, quoi. C'est pas un truc, c'est pas
ouais.
placebo. C'est pas des petits bonbons au sucre, quoi. C'est un vrai truc, c'est un vrai effet dans le cerveau. Et en fait, du coup, on s'est dit, ok, donc la psy, elle m'a conseillé ça. Moi, je suis allé voir mon généraliste. J'ai dit, je suis ma psy depuis quelques temps. Elle me dit que ce serait peut-être intéressant qu'on fasse ça, qu'on entame des antidépresseurs. Donc, on a commencé avec une très faible dose pendant pendant un mois, je crois. Et on voyait pas de grands changements, même si on continuait la thérapie, donc on voyait quelques améliorations, mais il y avait pas de changement de dingue par rapport à mon état, mon humeur, en fait, parce que c'est vraiment ça que ça résout, l'humeur, les antidépresseurs. Donc on est passé à une dose un peu plus haute, qui reste quand même faible par rapport à ce qu'on au maximum qu'on peut donner. Et là, ça a fonctionné. Donc, c'est-à-dire que mon cerveau, là, a commencé à se dire, ah, c'est cool, on arrive à refonctionner. Je l'ai fait pendant 6 mois. Et en même temps, bien sûr, de la psychothérapie, parce que de toute façon, la psychothérapie, c'est ce qui m'a sorti de là pour moi. Hein. Après, je pense que les antidépresseurs, c'est ce qui a permis de passer le cap, de vraiment se dire, là, je vais m'en débarrasser. À savoir que du coup, quand on prend des antidépresseurs, l'objectif c'est vraiment de pas les prendre à vie,
ouais,
parce que sinon, effectivement, ça fonctionne, mais t'as une accoutumance et du coup t'es obligé d'augmenter les doses, de passer à d'autres molécules. Enfin, c'est vraiment un bordel. Et pour le coup, moi, l'objectif c'était vraiment d'en prendre le moins possible, parce qu'en plus de ça, je me suis dit, moins t'en prends, plus ça veut dire que tu seras guéri. Donc, enfin, il y avait cet esprit de dire, vu que je veux fight la dépression, je veux pas en prendre longtemps, quoi. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, on va baisser la dose. J'ai baissé la dose pendant 3 mois.
Un sevrage.
Ouais, un sevrage, quoi. Parce qu'en fait, pour le cerveau, c'est assez intense, ces médicaments. Donc, du coup, maintenant, j'en prends plus du tout. Et c'est vrai que tu le remarques quand même. C'est-à-dire que tu le prends pendant 6 mois, après, tu baisses la dose, tu le prends pendant 3 mois. Et après, quand t'en as plus, tu te dis, ah oui, bon, va falloir quand même que je fasse quelques petits efforts, parce que... Et après, si t'as la psychothérapie qui a bien mis en place les trucs, tu t'en sors.
Ouais.
Mais je comprends que ce soit difficile, quoi.
Oui, et puis souvent, ce qu'on dit, et je sais que Mathilde en avait déjà parlé dans des épisodes du podcast sur le sujet, mais quand on voit que certains symptômes peuvent revenir, etc., il faut pas hésiter à aller reprendre une psychothérapie pour traiter les symptômes et quelques petits signaux et difficultés le plus rapidement possible pour éviter justement, tu vois, c'est de ça. Repartir dans un cycle plus intense. Mais oui, il y a vraiment eu un changement en tant qu'accompagnant, du coup, parce que c'est vrai que souvent quand on est proche de quelqu'un qui est en dépression, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas où se placer, on ne sait pas trop comment apporter son soutien. Moi, je sais que tu as parlé de la patience, oui, je pense que ça fait partie, mais ça fait partie aussi de l'amour qu'on donne à la personne qui est à nos côtés, de pouvoir dire, ok, là je comprends que c'est une période difficile pour toi, alors peut-être que je n'ai pas été aussi patiente que j'aurais voulu l'être aussi, parce que personnellement j'étais dans une période compliquée. Après, je connais mes biais d'exigence élevés qui font que j'ai tendance à toujours trouver que j'en fais pas assez, mais parce que voilà, j'étais aussi aidante de ma maman et accompagnante de ma maman, donc ça a été difficile à gérer. Mais je pense que ouais, cette notion de patience, elle est importante, et ne pas hésiter à vous, en tant qu'aidant, se faire aider aussi, pas forcément chez un psychologue si vous n'en ressentez pas le besoin, mais d'en parler aussi avec des proches de confiance, de demander du soutien sur certaines choses de charge mentale, parce que je me souviens qu'à cette période-là, et quand je vois aujourd'hui, je me dis, mais oh, la différence, elle est incroyable, sur la gestion de notre foyer et des tâches de notre foyer et la charge mentale. En fait, toi, c'était impossible de pouvoir prendre plus en charge, de pouvoir prendre certaines choses en charge. Parce que t'étais tout simplement en incapacité de le faire dû à la maladie. Et du coup, moi, je me sentais complètement surmenée sur certaines choses. Et du coup, avec le recul, je me dis que parfois, juste demander de l'aide sur l'à côté, sur certaines choses du quotidien, etc., ça peut être aussi une solution pour soulager la personne qui est aidant et qui est accompagnante. Et ne pas hésiter aussi à essayer d'avoir du dialogue quand c'est possible. Parce que des fois, le dialogue, il est rompu. Et au début, je me souviens quand toi, t'étais vraiment dans une période très, très compliquée, etc. Et c'est pour ça aussi que notre couple en a pris un coup. Parce que le dialogue était impossible. Et d'accepter que le dialogue n'est pas possible, d'accepter que le dialogue est rompu, c'est difficile quand on est un couple qui a toujours eu l'habitude communiquer. Donc, prendre du recul par rapport au fait que ce n'est pas de notre faute, de ne pas culpabiliser sur justement, j'en ai pas fait assez, ou je sais plus quoi faire, etc. Accepter de l'aide sur des petites choses de charge mentale quotidienne pour pouvoir aussi avoir des moments de respiration par rapport à tout ça. Moi, c'est ce qui, je pense, aurait pu
bien sûr.
Aider.
Bien sûr. Et puis se rappeler que la personne, souvent, c'est dans des couples, la partenaire ou le partenaire n'est pas responsable de l'état de l'autre aussi. Enfin, je veux dire, c'est un énorme poids et il faut pas non plus se le prendre sur les épaules en se disant c'est de ma faute si il ou elle est comme ça et je suis responsable de ça, parce que ça peut être hyper destructeur et,
bien sûr.
Et c'est pas facile.
Même
c'est
quand il y a des enfants au milieu, etc.
Voilà, il y a les enfants, tout ça, c'est pas facile. Donc c'est vrai que j'imagine que pour toi ça n'a pas été de tout repos, c'est clair.
Oui,
et c'est vrai que sur le moment, ça c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un truc où tu te dis mais t'es vraiment... en plus tu fais subir ça
C'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte de jamais, tu vois, le montrer et de prendre sur soi, etc. Mais je sais que pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, c'est difficile parfois de prendre sur soi parce qu'on se sent impuissant, en fait. Quand on se sent impuissant par rapport à une personne qu'on aime, c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas non plus être celle qui te fout les deux pieds dans le cabinet d'un ou d'une psy, quoi.
Non, mais ça aurait pas marché, de toute façon.
Ça aurait pas marché, c'est une démarche qui est personnelle. Par contre... on a quand même eu des discussions sur ça, sur cette possibilité de se faire aider, sur ce qui existait comme solution. Et par petites touches, même si parfois c'était un dialogue complètement fermé, on réessayait quelques jours plus tard, etc. Et je pense que ça plante des graines sur la possibilité qu'il existe des solutions.
Bien sûr. Et puis se rappeler que ce processus de décision d'aller voir un psy, de prendre des antidépresseurs, tout ça, c'est un processus qui est long en fait, qui est long à réaliser pour la personne qui est dépressive, parce que en fait, ça demande tellement de confiance en soi. De se dire là, je peux sortir de cet état-là, je peux me faire aider pour guérir, pour sortir de ça, que c'est très long, quoi. C'est très long à intellectualiser. Moi, ça m'a pris des mois avant de me dire oui, peut-être que ce serait bien que j'aille voir une psy.
Bien sûr. Ouais, c'est beaucoup.
Si on parle de moi, quoi, pour moi.
C'est un long chemin. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la vie n'est plus la même. Hein.
Non, franchement, c'est. En fait, moi, pour le coup, j'ai l'impression que ça faisait des années que j'avais pas été dans cet état d'esprit-là. Mmh. Alors, à une moindre mesure avant, mais en tout cas, l'année 2022. La fin de l'année 2021 et le début d'année 2022, c'était vraiment le plus down possible. Et de sortir de ça et d'être dans une énergie comme ça aujourd'hui où je prends du plaisir avec mon fils, je prends du plaisir dans mon couple, je prends du plaisir professionnellement parce que aussi j'ai redéfini, grâce à ma psychothérapie, tout ça, j'ai redéfini mes valeurs, j'ai redéfini ce que j'avais envie de faire dans ma vie, ce que j'avais envie de porter comme message, d'avoir fait tout ça. Ça paraît peut-être pas énorme, mais pour quelqu'un qui partait d'aussi bas que moi en termes d'humeur et d'énergie, moi j'en suis très très fier. Et aujourd'hui, cette fierté-là, elle me porte aussi, elle me guide vers autre chose, vers des projets toujours plus entreprenants et des choses que j'imaginais pas avant. Parce qu'en fait, tout simplement, avant, moi, mon projet, c'était de faire le strict minimum de ce que je pouvais faire et de pas partir tout seul dans la nuit, dans la rue, pleurer. Enfin, tu vois, de juste tenir, quoi, c'était déjà bien, quoi.
Oui, c'est ça. T'étais dans un truc, un mode un peu de survie où tu fais le strict minimum.
T'es en pilote automatique,
oui,
quoi.
Oui, voilà,
c'est ça. Automatique, et tu te fais à manger. Moi, pour le coup, je faisais à manger à Gaspard. Je rangeais vite fait la maison. Je faisais vraiment le strict minimum. Et après, c'était couché, quoi. Donc, quand j'avais des trucs pour le boulot à faire, je les faisais. Mais vraiment, pas de la qualité incroyable et pas des trucs dont j'étais fier, en fait.
Ça avait pas tellement
puis
de sens.
Ça avait
pour
aucun
toi.
Sens, quoi. C'était peut-être purement alimentaire. Et quand je vois là la différence avec aujourd'hui, je me dis, waouh, mais c'est vrai que t'étais très très loin quand même, quoi.
Bien sûr, c'est quand on sort la tête de l'eau qu'on se rend compte à quel point ça a été deep et profond. Et franchement, alors pour le coup, là, je pense que l'accompagnant et l'aidant a un recul différent parce que du coup, moi j'ai vu le chemin traversé et c'est incroyable. Enfin, vraiment, tu sais que je suis très fière de toi, mais toute cette période-là montre à quel point la santé mentale, c'est juste indispensable, primordial. Et c'est une priorité par rapport à tellement, tellement, tellement de choses. Et le fait que tu t'en sois, que tu l'aies pris en charge, tout simplement, et que tu portes ce message aujourd'hui, c'est aussi une manière, je pense, de sensibiliser au fait que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment, peu importe votre âge, votre classe sociale, peu importe ce qui vous arrive dans la vie. Et aussi, même si vous êtes un homme, parce que la santé mentale, souvent, c'est tabou. Et alors, ça l'est encore plus en tant qu'homme. Donc... Merci d'avoir fait passer ce message.
Merci et merci à toi, parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est un message qui est hyper important. Le nombre de gens qui sont dans cet état-là et qui n'ont pas l'aide nécessaire pour pouvoir en sortir, c'est hallucinant. Et c'est vrai que plutôt que de dire rien à foutre de ta dépression, moi j'ai envie de dire plutôt on est là et on va s'aider, on va s'entraider. Et c'est vrai que c'est vrai que les hommes, on a vraiment ce truc patriarcal de dire non, on n'a pas le droit d'être mal, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'avoir
des émotions.
Des émotions. C'est faux, c'est complètement faux. Je veux dire, moi, pendant 6 mois, j'ai pleuré peut-être 3-4 heures par jour, 3-4 heures par nuit, facile. Et vous inquiétez pas, les glandes lacrymales, c'est magique, ça revient. Donc, tu peux pleurer tous les jours pendant très longtemps, il n'y a pas de souci, même quand on est un bonhomme. Donc, c'est vrai que c'est important de le dire, trouvez de l'aide, faites-vous aider. Et puis, des fois, on n'a vraiment personne. Juste dites, je suis pas bien, et il y aura du monde autour qui essaiera de le trouver pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à contacter les gens autour de vous et vous faire aider.
Ouais, merci beaucoup d'avoir témoigné. N'hésitez pas à aller regarder les informations de ce podcast. On mettra le maximum d'infos à ce sujet. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et à très vite.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé. Ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.